Notamment de judaïsme, puisque c'est Shabbat, nous serons avec les rabbins Jonas Jacquelin et Mendel Nissenbaum. À tout à l'heure. Il est 9h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité. Comme chaque matin, nous sommes le vendredi 26 avril 2024, 203e jour de guerre contre le Hamas et toujours 133 otages à Gaza.
Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Le sommaire de cette édition de 9h à 10h, je vous le disais, le journal avec Etanit Belaïch dans quelques instants. Bonjour Etanit.
Bonjour Ilana.
Et on vous retrouve effectivement pour les titres également dans cette matinale. Nous allons parler ce matin de judaïsme et questions de société avec Jonas Jacquelin. Nous allons également être avec le rabbin Mendel Nissenbaum pour un commentaire sur la fête de Pessah. Et puis deux dossiers ce matin. Un dossier sur le génocide des Arméniens. Effectivement, c'était il y a 109 ans. Et un autre dossier, sans transition aucune, sur Amy Winehouse, puisque vous le savez, un biopic est sorti cette semaine sur la vie de la chanteuse juive anglaise torturée et talentueuse. On en parlera avec vous, Etanit, sur Radio J. Mais d'abord l'actualité, 203e jour de guerre contre le Hamas et au nord, un civil israélien a perdu la vie dans des frappes du Hezbollah.
Il s'agit de Sharif Souad, un arabe israélien originaire du village de Ras Alayn. Il travaillait sur un chantier lorsqu'il a perdu la vie dans ses attaques nocturnes contre la région du Mont Dov. En réponse, Tzal a mené des frappes contre le groupe terroriste dans le sud du Liban.
Et puis pendant ce temps au sud, l'opération militaire israélienne à Rafah se prépare.
Hier soir, l'armée israélienne a massé des dizaines de chars et de véhicules blindés le long de sa frontière avec le sud de la bande de Gaza. De son côté, l'Égypte se prépare à l'opération en relevant le niveau d'alerte dans le Sinaï. Les responsables chargés des questions palestiniennes et israéliennes au ministère égyptien des Affaires étrangères ont reçu l'ordre d'annuler leurs vacances à partir de la semaine prochaine. Les mêmes instructions ont été données au chef du Shin Bet et au chef d'état-major de Tzahal, Herzi Halevi.
Les négociations pour la libération des otages se poursuivent. Une délégation égyptienne sera aujourd'hui en Israël.
Elle sera composée de hauts responsables égyptiens. En attendant, le Hamas campe sur ses positions, Olivier Granilic.
Le Hamas demande un arrêt de la guerre totale dans la bande de Gaza. Israël exige de son côté que la période de trêve que le Hamas recevra en échange soit plus courte que les 6 semaines discutées jusqu'à présent. Si en avril, Israël était prêt à une trêve de 6 semaines en échange de 40 prisonniers, dans la nouvelle proposition, la trêve sera plus courte. Israël est aussi d'accord d'assouplir sa position sur la question du retrait du couloir de Netzarim, l'une des exigences auxquelles Israël s'était opposé, mais est prêt à présent à changer de position pour arriver à un accord avec le Hamas.
Et la dernière offre israélienne porterait désormais sur la libération de 33 otages et non 20, comme initialement annoncé par les médias d'après un responsable israélien.
Et alors que nous sommes toujours sans nouvelles des 133 otages détenus par le Hamas, les terroristes du 7 octobre arrêtés auront droit, eux, à des visites.
Une décision prise hier par le cabinet de guerre israélien. Dans le détail, un juge israélien et deux observateurs étrangers pourront ainsi rendre visite aux membres de la force Nourba détenus dans les prisons israéliennes.
Dans le reste de l'actualité, les répercussions de l'attaque des mollahs iraniens contre Israël. Hier, le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles sanctions contre l'industrie de drones iraniens.
Sanctions également décidées avec les États-Unis et le Canada. Au total, 4 entreprises et 2 directeurs d'un réseau de sociétés de drones sont visés. Plus largement, le Parlement européen appelle à une prolongation des sanctions contre l'Iran après l'attaque contre Israël.
Au chapitre diplomatique à présent, après la visite de plusieurs responsables libanais à Paris, le ministre français des Affaires étrangères entame demain samedi à Beyrouth une nouvelle tournée au Proche-Orient.
Il y évoquera notamment l'instabilité au sud Liban et la situation à Gaza. Il devrait aussi évoquer les propositions françaises qu'il avait portées il y a 2 mois pour désamorcer le conflit à la frontière libano-israélienne restée lettre morte depuis. Il s'agira de la seconde visite de Stéphane Séjourné dans la région.
Aux États-Unis, on en parle depuis quelques jours maintenant, les sièges antisémites dans les universités qui se poursuivent. Hier, l'université de Californie du Sud a annulé sa cérémonie de remise des diplômes.
Les autorités universitaires américaines craignent que les manifestations pro-Hamas ne perturbent la cérémonie prévue dans 2 semaines. Là-bas, près de 100 personnes ont été interpellées dans la nuit de mercredi à jeudi. Hier à Princeton, dans le New Jersey, des étudiants anti-israéliens ont été rapidement délogés par les policiers, tout comme à Harvard.
Et puis en Belgique, une conférence anti-israélienne prévue ce soir sur le campus de Solbosch à l'Université libre de Bruxelles suscite la polémique.
Une conférence animée par l'avocat franco-palestinien Saleh Amouri, condamné par l'État hébreu en 2008 pour terrorisme. Pour rappel, il avait tenté d'assassiner le rav Ovadia Yosef. L'Union des étudiants juifs de Belgique s'est insurgée contre le maintien de cet événement. Écoutez.
L'ULB se déresponsabilise de tout, comme d'habitude, prétend qu'elle n'a pas le pouvoir de refuser l'organisation d'une conférence par un cercle, ce qui est faux, l'ULB étant un organisme privé, un domaine privé. Ici, il ne s'agit pas de maintien de l'ordre public, il s'agit simplement de voir si la conférence qui aura lieu à l'ULB est en concordance avec les valeurs de l'ULB. Ce n'est pas le cas. L'Université libre de Bruxelles, c'est la liberté, c'est le libre examen. Je ne pense pas qu'un terroriste a sa place et a ces valeurs-là.
Gad Dé, co-président de l'Union des étudiants juifs de Belgique, au micro d'I24 News.
Et puis enfin, pour terminer, au Pérou, un Iranien et deux Péruviens ont été condamnés à 18 mois de détention pour avoir planifié l'assassinat de deux Israéliens.
Selon les procureurs péruviens, le suspect iranien pourrait être membre de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution. Le juge a toutefois précisé que le motif du projet de meurtre n'était pas clair. Les deux Israéliens ciblés sont un guide touristique à Cusco et un propriétaire de café dans la même ville.
Merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve tout au long de cette édition sur Radio J.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 26 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et nous retrouvons à Jérusalem Pascal Zonshine, notre correspondante. Et Pascal, on parle de ces négociations pour la libération des otages qui se poursuivent, notamment avec l'Égypte. Mais aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi le Hamas rejette systématiquement toutes les offres de trêve et refuse de relâcher les otages ?
Bien, 6 mois et demi après le début de la guerre, Israël n'a toujours pas réussi à défaire le Hamas. Si l'organisation islamiste palestinienne a bien été affaiblie sur le terrain, elle ne donne encore aucun signe de reddition. Au contraire, elle s'enferme dans son refus et pose des conditions maximales. En échange de la libération des 133 otages qu'elle détient, elle exige purement et simplement la fin de la guerre et le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza. Le Hamas voit l'évolution du conflit et notamment l'impact sur Israël des pressions constantes de la communauté internationale. Des pressions qui ont progressivement retiré à Israël l'essentiel de ses leviers de pression sur le Hamas, à commencer par celui de l'aide humanitaire. Israël avait commencé par fermer tous ses terminaux frontaliers au début de la guerre avec la bande de Gaza, sans toutefois empêcher l'entrée des cargaisons par l'Égypte. Ensuite, les dirigeants israéliens avaient tenté de conditionner l'entrée supplémentaire d'assistance humanitaire à la libération des otages, ou au moins à des garanties que les otages seraient traités humainement et pourraient notamment obtenir des médicaments. Autant de tentatives qui ont échoué sous la pression des États-Unis et des pays occidentaux au fur et à mesure qu'émergeaient de Gaza les images de la guerre et des événements comme cette bousculade fin février lors du pillage d'un convoi humanitaire qui avait fait des dizaines de victimes. Israël a dû s'incliner et revenir progressivement à la situation qui prévalait avant la guerre. Même problème avec le plan d'offensive à Rafah, le dernier bastion du Hamas au sud de la bande de Gaza, devenu aux yeux de la communauté internationale une deuxième guerre de Gaza à part entière qui entraînerait irrémédiablement une catastrophe humanitaire. Le Hamas n'a donc pas besoin de poser de conditions qui lui sont déjà accordées, ce qui lui permet de regarder en avant et d'envisager sa reprise totale du contrôle de la bande de Gaza et donc sa survie politique. C'est ce que font les dirigeants de l'organisation terroriste quand ils affirment maintenant qu'ils ne relâcheront les otages qu'après la fin de la guerre et le retrait total de Tsahal. Israël a déjà donné des signes de concession en acceptant le principe d'un retour partiel de la population déplacée vers le nord de Gaza. Maintenant, les dirigeants israéliens doivent eux aussi se projeter dans l'après-guerre de Gaza s'ils veulent tenir leurs objectifs. L'opération Arafat est indispensable pour empêcher le Hamas de se réarmer, car il a besoin de contrôler les filières de contrebande qui passent par la frontière égyptienne. Et il faut impérativement mettre sur pied une alternative de gouvernance civile à Gaza, car dans ce cas, même s'il survit à la guerre, le Hamas aura perdu son pouvoir politique.
Merci beaucoup Pascal Zunshine, notre correspondante à Jérusalem, qu'on retrouve tous les matins sur Radio J de 6h à 9h, et rendez-vous également cet après-midi à partir de 14h.
Ce programme vous a été présenté en partenariat avec le Collège Tikva. Nouveau, ouverture d'un collège bilingue à Boulogne pour la rentrée, le Collège Tikva. Renseignements au 01 49 23 73 41 ou sur collegetikva.com. Vous écoutez
Radio J.
Radio J. Radio J.
Point sur la météo ce vendredi, un peu de fraîcheur, beaucoup de nuages, un temps de plus en plus instable d'ailleurs cet après-midi sur l'Hexagone avec des averses menaçantes, mais l'Île-de-France est épargnée par les pluies, ce qui ne sera pas le cas à Lyon et en Normandie. Côté température, comptez 7 degrés ce matin à Paris, il fera 15 cet après-midi. Et puis en Israël, il fait toujours très bon et très chaud, 25 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv, plus de 34 à Eilat. Sur l'infotrafic également en région parisienne, les trafics interrompus ce matin sur la ligne 11 et jusqu'à demain toute la journée entre Belleville et Méry-des-Lilas en raison de travaux. Des bus de remplacement sont mis à votre disposition. Et puis sur la ligne 2 également, trafic perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison d'un bagage oublié au niveau du métro Rome. Enfin sur les routes, circulation difficile en ce moment sur l'autoroute A1 vers Paris en raison d'un accident au niveau de Saint-Denis. Et puis enfin, fermeture toujours de l'A13 dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson, et jusqu'au 30 avril.
Radio J.
Le 9-10. Le 9-10, Ilana Ferradian.
Et un autre son ce matin, celui du doudouk arménien. C'était il y a 109 ans, presque jour pour jour, le 24 avril 1915, à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. Ce jour-là, 600 notables arméniens étaient assassinés sur ordre du gouvernement jeune turc de Talat Pacha. Le début du génocide des Arméniens que nous souhaitions commémorer cette semaine, premier génocide du XXe siècle qui fera environ 1,2 à 1,5 million de victimes dans la population arménienne de l'Empire turc. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que des années avant 1915 se tenaient déjà des persécutions et des massacres contre ce peuple millénaire qui fut le premier à adopter le christianisme comme religion d'État du royaume d'Arménie en 301 après notre ère, créant et conservant une branche distincte de cette religion, l'Église apostolique arménienne. Située au carrefour culturel, historique et religieux entre l'Europe et l'Asie, le peuple arménien a ainsi élaboré une culture singulière, une culture résiliente. Leur réussite ne plaisait pas aux sultans de l'Empire ottoman, qui en firent par ailleurs des dhimmis, des citoyens de seconde zone comme le furent les juifs et d'autres minorités non musulmanes. Au XIXe siècle, entre 1839 et 1876, l'Empire ottoman entre donc dans une décadence accélérée. Le sultan Abdulhamid II, humilié par le congrès de Berlin de 1878, attise les haines religieuses pour consolider son pouvoir. Il fait massacrer 200 000 à 250 000 arméniens avec l'aide de montagnards kurdes, et à Constantinople même Tanit, la violence se déchaîne contre les Arméniens du Grand Bazar, tués à coups de bâton.
1 million d'Arméniens sont dépouillés de leurs biens et quelques milliers convertis de force. Des centaines d'églises sont brûlées ou transformées en mosquées. Rien qu'en juin 1896, dans la région de Vannes, au cœur de l'Arménie historique, pas moins de 350 villages sont rayés de la carte. Ces massacres planifiés affichent dès lors un avant-goût de génocide. En 1895, dans la ville de Beyburt, les jeunes filles arméniennes sont enlevées, celles du moins qui préfèrent ce funeste sort à la mort. Celles qui ne s'y plient pas sont brûlées vives. 14 d'entre elles périssent dans les flammes. La plupart sont mères de nourrissons, eux aussi immolés vifs ou noyés. Une femme enceinte est éventrée. On dépèce l'enfant que l'on arrache de ses entrailles, comme le relate Franck Papazian dans son livre Le régime Erdogan, une menace pour la France.
Le 27 avril 1909, les jeunes turcs installent sur le trône un nouveau sultan, Mohamed V, sous l'étroite surveillance d'un comité Union et Progrès dirigé par un certain Enver Pacha. Soucieux de créer une nation turque racialement homogène, les Turcs multiplient les exactions contre les Arméniens d'Asie mineure. On compte ainsi 20 000 à 30 000 morts à Adana en Cilicie le 1er avril 1909. Le régime d'Enver Pacha lance des campagnes de boycott, des commerces tenus aussi par des Grecs, des Juifs ou des Arméniens. en s'appuyant sur le ressentiment et la haine des musulmans turcs refoulés des Balkans. Le 1er novembre 1914, l'Empire ottoman entre dans la Grande Guerre aux côtés des puissances centrales, les empires allemands et austro-hongrois contre la Russie et les occidentaux. Les Turcs tentent de soulever en leur faveur les Arméniens justement de Russie, en vain, bien qu'en nombre supérieur, ils sont défaits, les Turcs par les Russes en décembre 14.
L'Empire ottoman est envahi, l'armée turque perd 100 000 hommes. À l'hiver 1914, elle bat en retraite et, exaspérée, multiplie les violences à l'égard des chrétiens dans les territoires qu'elle traverse, qu'ils soient arméniens, assyro-chaldéens ou grecs orthodoxes, prenant comme prétexte leur soutien présumé aux Russes. Et malgré le comportement exemplaire des 120 000 soldats arméniens de l'armée ottomane, Enver Pacha ordonne dès février 1915 qu'ils soient retirés du front, désarmés et affectés à l'arrière à des bataillons de travail.
Dans les semaines qui suivent, ils vont être systématiquement exécutés. Les jeunes Turcs profitent des troubles pour accomplir leur extermination totale des Arméniens et des Assyro-Chaldéens de l'Asie mineure. L'assassinat des élites arméniennes à Constantinople est donc d'abord ordonné, première étape. C'est ensuite le tour des nombreuses populations arméniennes des 7 provinces orientales, le Liban et Jérusalem étant épargnés. Officiellement, il s'agit de déplacer les Arméniens et autres chrétiens des provinces d'Anatolie vers Alep et des camps installés dans le désert de Syrie. Officieusement, c'est une mise à mort de tout un peuple qui se met en place.
Dans les villages qui ont été quelques semaines plus tôt privés de leurs notables et de leurs jeunes gens, il est facile pour les militaires et les gendarmes de réunir les femmes et les enfants. Ces innocents sont donc réunis en long convoi et déportés vers Deir Zor, sur l'Euphrate, une région désertique de la Syrie ottomane. Démarche difficile qui se déroule sous le soleil de l'été, dans des conditions épouvantables, sans vivre et sans eau, sous la menace constante des montagnards kurdes et tchékres. Elle débouche en général sur une mort rapide.
Survivent toutefois une centaine de milliers de jeunes femmes ou d'adolescentes. Les plus jolies sont enlevées par les Turcs ou les Kurdes pour être vendues comme esclaves, converties à l'islam et mariées de force. En septembre 1915, après les habitants des provinces orientales, vient le tour des Arméniens de Cilicie. Ils sont aussi convoyés vers le désert de Syrie dans des wagons à bestiaux, puis transférés dans des camps en zone désertique où ils ne tardent pas à succomber à leur tour. Au total, disparaissent donc pendant l'été 1915 les deux tiers de la population arménienne sous souveraineté ottomane. Ajoutons à cela la disparition des Assyro-Chaldéens des provinces orientales de Diyarbakir, Erzurum et Bitlis, généralement associés à leurs voisins arméniens, c'est vrai, dans les déportations et les massacres.
Dans une ultime phase, le gouvernement turc décide de liquider de toutes les manières possibles les 700 000 malheureux qui ont survécu aux marches de la mort et sont parqués dans les camps de Syrie. Seules vont subsister les communautés arméniennes de Smyrne, d'Istanbul et du Proche-Orient, trop en vue des diplomates occidentaux, ainsi que les communautés assyro-chaldéennes de Mésopotamie, trop éloignées.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette période, en Occident, on est au courant que se déroule un génocide, mais rien n'est fait pour l'endiguer. Le gouvernement allemand, allié de la Turquie, censure toutes les informations à propos. Et à cette période, Berlin entretient en Turquie une mission militaire très importante, jusqu'à 12 000 hommes. Précisons d'ailleurs qu'après la guerre, c'est en Allemagne que se réfugieront les responsables du génocide, y compris Talat Pasha, sous une autre identité. Talat Pasha qui sera d'ailleurs éliminé à Berlin le 16 mars 1921 par un jeune arménien, Sogomon Terlirian, qui sera acquitté par la justice allemande.
Le traité de Sèvres, signé le 10 août 1920 entre les alliés et le nouveau gouvernement de l'Empire ottoman, prévoyait pourtant la mise en jugement des responsables du génocide, mais le sursaut nationaliste du général Mustafa Kemal bouscule ces bonnes résolutions. D'abord favorable à ce que soient punis les responsables de la défaite et du génocide, Mustafa Kemal se ravise car il a besoin de ressouder la nation turque face aux Grecs et aux Occidentaux qui menacent sa souveraineté. Il décrète une amnistie générale le 31 mars 1923. La même année, le général parachève la turquisation de la Turquie en expulsant les Grecs qui y vivaient depuis la Haute Antiquité. Istanbul, ville aux deux tiers chrétienne en 1914, devient dès lors exclusivement turque et musulmane.
Qui se souvient encore de l'extermination des Arméniens ? Cette phrase d'Adolf Hitler prononcée en 1944 résume à elle seule toute la problématique historique et mémorielle du génocide des Arméniens. Une mémoire qui cherche désespérément à s'ancrer et qui se heurte toujours à un oubli forcé. Malgré les images, les photos, les audios et tous les papiers qui l'attestent, aujourd'hui la Turquie ne reconnaît pas le génocide des Arméniens. Et si Talat Pasha a été condamné en Turquie en 1919 par contumace, son nom reste synonyme de fierté nationale dans le pays.
La Turquie obtient même en 1943 de l'Allemagne nazie le droit de transféré de Berlin ses restes à Istanbul. Ses mémoires posthumes sont également publiées et un mausolée, lui, est toujours dédié à Istanbul, ainsi qu'un important quartier, un des principaux boulevards d'Ankara, un grand boulevard d'Izmir et une avenue d'Edirne en Turquie porte son nom.
Et les répliques du génocide arménien continuent en 2024. En ce moment même, le peuple arménien subit les assauts continus de son voisin azéri, soutenu par la Turquie. Après l'Artsar nettoyé en septembre 2023 de ses 150 000 habitants, les azéris s'attaquent au patrimoine arménien de la région. Depuis des semaines, circulent d'inquiétantes vidéos de destruction, de vandalisation d'églises, notamment dans la région de Chouchi. Et plus inquiétant encore, eh bien c'est l'Arménie qui vit désormais sous la menace du régime de Bakou, dans un silence assourdissant de la communauté internationale. Au début du mois d'avril, deux villages de la région du Sunik en Arménie étaient ainsi visés par des tirs azerbaïdjanais. Depuis des mois, l'armée azérie tire chaque jour sur des positions militaires et même sur des bâtiments civils. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Et un hommage ce matin, une chanson pour tous les rescapés de ce génocide. Ils sont tombés, Charles Aznavour.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont invoquant leur Dieu au seuil de leur église, ou le pas de leur porte, en troupeau de désert qui tubant entorte, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique.
Radio J.
Le 10, le 9-10, Hélène Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins. Et je suis avec vous de manière assez inédite ce matin de 9h à 10h. Restez avec nous tout de suite, Jonas Jacquelin.
Radio J.
Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 8h45, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche,
je recevrai Yvan Attal.
Les enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 8h45, uniquement sur Radio J.
Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales ? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h, au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous.
Radio J, le 9-10, Hélène Ferradian.
Merci de votre fidélité. Vendredi 26 avril 2024, vendredi veille de Shabbat ce soir, et j'aime bien donner les horaires du Shabbat. Entrée ce soir à Paris 20h41, sortie demain 21h54. On est en pleine fête de Pessah, et pour en parler, nous sommes avec le rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour Jonas.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Et oui, nous sommes entrés dans la fête de Pessah maintenant, depuis quelques jours, et c'est une fête, c'est assez intéressant, qui porte en fait plusieurs noms, et notamment Chag Aviv, la fête du printemps. Alors qu'est-ce que ça signifie ?
Alors vous avez tout à fait raison de poser la question, parce qu'on pourrait se dire, on est habitué au nom de Pessah, et pourtant il y a toute une série de noms. Alors Pessah, c'est passé au-dessus, on pense à l'ange de la mort qui est passé au-dessus des maisons égyptiennes au moment de la dixième plaie. Il y a Chag Zman Rerouteinu, la fête du temps de notre liberté, parce que c'est vrai qu'on est devenu libre à l'occasion de Pessah. Il y a Chag HaMatzot, la fête des Matzot, c'est le pain azim qu'on mange pendant toute une semaine. Et il y a aussi ce nom de Chag HaAviv, la fête du printemps. Et on se demande, pourquoi est-ce que Pessah, c'est la fête du printemps ? Alors on pourrait répondre, dans un premier temps, de manière très très logique. C'est une fête qui arrive généralement autour du mois d'avril, et
c'est le printemps.
Mois d'avril, c'est le printemps. Mais ce serait pas suffisant. Ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que, évidemment, en tant qu'être humain, on est aussi soumis aux saisons en termes de temps, mais aux saisons en termes de symboles. Et le printemps, il suffit d'observer autour de nous, c'est le temps de la renaissance, c'est le temps de la floraison, le temps où on est parti de quelque chose qui avait fané, de quelque chose qui avait pu laisser entendre qu'il allait finir complètement décrépit et qui finalement est capable de lui-même de se ressaisir, de donner quelque chose de nouveau. Et Pessah, c'est le printemps du peuple juif, c'est le moment où un peuple qui avait été esclave finit par retrouver la liberté, et la liberté pour faire de grandes choses, évidemment.
Une fête de joie, donc, aussi. Alors, est-ce qu'il y a des textes qui sont lus pendant la fête de Pessah, de Chag HaAviv, qui permettent de comprendre ça?
Alors, effectivement, là, vous avez précisé à l'instant, on entre ce soir dans Shabbat, et qui dit Shabbat dit, bien évidemment, lecture de la paracha et lecture d'une haftara. La haftara, c'est un texte qui est tiré des prophètes et qui vient en complément du texte de la Torah. Et qu'est-ce qu'on lit dans la Haftara de Chol HaMoed Pessah? Chaque année pendant Pessah, on va lire le texte d'Ézéchiel. Ézéchiel, qui était un prophète, qui était contemporain de la destruction du premier temple. Il fait partie de ceux qui ont été amenés en captivité en Babylonie à l'époque. Et il a des visions parfois assez délirantes, souvent très très imagées. Et il a une vision dans laquelle l'Éternel s'adresse à lui pour lui parler de ce qu'il appelle les ossements desséchés. Et donc, il lui dit de regarder dans une vallée où on voit toute une série d'ossements qui sont desséchés. En réalité, c'est des cadavres en décomposition, c'est des os qui devraient finir par redevenir poussière. Et qu'est-ce qu'on voit dans la vision du prophète Ézéchiel? On voit ces os qui vont finir par se reconstituer. On va voir de la chair qui va venir pousser sur ces os. On va voir une peau qui va venir entourer tout cela, et ce qui était au départ des ossements en voie de décomposition, ça va devenir des corps, ça va devenir des vivants, et des vivants qui en réalité sont le symbole du peuple d'Israël qui avait été emmené en captivité, dont on aurait pu dire que la captivité, la diaspora, la dispersion, ça allait être une source, je dirais, d'effacement, d'émiettement, de disparition. Dans la vision du prophète, on voit qu'il y a toujours une renaissance qui vient. Et la renaissance qui vient, qui est mentionnée ici, c'est une consolation pour les exilés qui ont pris un coup énorme sur la tête. On les a arrachés à la terre d'Israël, on les a emmenés loin de leur pays, et ils ont cette vision, et elle est là pour leur redonner confiance et leur dire, dans votre génération, peut-être ou peut-être pas, dans la génération qui suit, peut-être ou peut-être pas, mais viendra un moment, viendra une génération où vous allez tous, vous qui étiez des os, des squelettes, redevenir des corps, et des corps vivants, bien vivants, qui ont notamment vocation à retourner vers le pays d'Israël. Donc on voit dans le texte le fait que à chaque époque, que ce soit face aux Égyptiens, face aux Babyloniens, on a la possibilité d'une renaissance.
Et comment vous analysez justement ça aujourd'hui avec tout ce qui se passe aussi dans le contexte actuel, les otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza? Avec quel regard vous observez ça?
L'idée que la fête de Pessah, c'est une fête qui parle d'un événement passé, mais qui en fait est un moment vraiment atemporel. Et je pense que tous ceux qui ont été autour de la table du Seder les jours passés, on a eu le sentiment, quand on a chanté Veiche Amda, ce qui nous a maintenu, nos ancêtres et nous, de se dire, ça vaut pour le passé, mais ça vaut pour nous aujourd'hui. Ça vaut pour les otages, ça vaut pour les soldats qui se battent pour défendre le pays d'Israël, ça vaut pour les juifs dans la diaspora qui souvent vont être en proie à de l'hostilité, à de la malveillance. Et de se dire, comme le dit Kohelet, rien de nouveau sous le soleil, et pourtant ce qui reste, ce qui est vraiment vivant, c'est le fait que, quelle que soit la forme, il y a toujours une renaissance qui vient, et que ce Pessah, cette année, ça peut être aussi l'occasion d'une renaissance, d'une prise de conscience pour beaucoup qui auraient pu se dire les malheurs passés, en réalité, ils sont derrière nous. Et il y a pu y avoir aussi, dans le peuple juif ou en Israël, l'idée que le fait d'avoir un État, d'avoir la possibilité de se défendre, ça protégeait des pogroms, ça protégeait de certaines attaques massives. Et là, on se rend compte que, en réalité, c'est pas le cas. On se rend compte qu'il faut être vigilant, comme l'a toujours été le peuple juif au travers de l'histoire, mais surtout que, de la même manière que Dans le judaïsme, la journée, elle commence le soir, elle commence avec la nuit, elle commence avec les ténèbres. Il y a toujours un moment où vient le jour, où vient la renaissance. Il y a toujours eu un automne avec un printemps qui vient. Il y a toujours eu des ossements qui, finalement, vont redevenir des êtres de chair et de sang et qui sont là pour porter haut et fort tout ce qui va être le nom d'Israël.
Un message d'espoir, donc, aujourd'hui, pour le retour des otages.
Pour le retour des otages auprès de leur famille et l'appel à sécurité pour tout le peuple d'Israël.
Eh bien, merci beaucoup, Jonas Jacquelin. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Chag Sameach. Chag Sameach. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes.
Excellent.
Vous aimez bien la galette ? La matzah shmoura.
La prochaine fois, vous m'inviterez pour mes recettes de Pessah.
Merci beaucoup, Jonas Jacquelin, qu'on retrouve chaque vendredi sur Radio J, également en podcast sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube, puisque nous sommes en vidéo. Je vous le rappelle, dans quelques instants, le rappel des titres avec Etanit Belaïch qui entre en studio tel un joueur de foot. Et puis, à suivre également notre dossier sur Amy Winehouse. Et oui, le film sur Amy Winehouse qui est sorti en salle cette semaine. Vous l'avez vu peut-être, Jonas ?
J'irai le voir après les fêtes.
Après les fêtes, parce que c'est vrai qu'on c'est pas très agréable de pas pouvoir manger de pop-corn au cinéma. Voilà, fête oblige, Pessah oblige. Mais on va retracer la vie, effectivement, d'Amy Winehouse, qui était très attachée à ses racines juives. Justement, on en parle juste après le rappel des titres avec Etanit Belaïch.
Vous écoutez Radio J.
Radio J.
Essentiel de l'information avec vous, Etanit, bonjour.
Bonjour Elena, bonjour à tous. Le Hezbollah a attaqué une base de Tzal dans la région du Mont Dov à l'aide de missiles anti-chars. Un civil israélien a été tué. En riposte, l'armée a mené des frappes contre la source des tirs. L'opération militaire israélienne à Rafah se concrétise un peu plus. Hier soir, l'armée israélienne a massé des chars et des véhicules blindés le long de sa frontière avec le sud de la bande de Gaza. Une délégation égyptienne sera aujourd'hui en Israël pour reprendre les négociations pour la libération des otages. Hier soir, le cabinet de guerre examinait un nouveau plan de libération d'une trentaine d'otages contre le retour des Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. La flottille de la Liberté, qui prévoit d'acheminer de l'aide humanitaire depuis la Turquie vers la bande de Gaza, a été retardée de plusieurs jours en raison de procédures portuaires à Istanbul. Un nouveau projet humanitaire 14 ans après l'incident de Marmara, au cours duquel 9 agents turcs ont été tués et 10 soldats de Tsahal blessés. Le chef de la diplomatie française entamera demain à Beyrouth une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Il devrait notamment évoquer les propositions qu'il avait portées il y a 2 mois pour désamorcer le conflit à la frontière libano-israélienne restée lettre morte depuis. De Los Angeles à Atlanta, en passant par Chicago aux États-Unis, le mouvement d'étudiants pro-palestiniens grossit d'heure en heure après avoir débuté il y a une dizaine de jours à l'université Columbia de New York. L'université Columbia qui annonce reporter l'évacuation des manifestants sur son campus. Depuis le 15 avril, des étudiants ont planté leur tente sur le site pour protester contre les opérations menées par Israël dans la bande de Gaza. Une vague antisémite qui frappe également la France. Une vingtaine d'étudiants anti-israéliens occupent depuis hier soir un bâtiment à Sciences Po, rue Saint-Guillaume. Ils réclament, je cite, la condamnation claire des agissements d'Israël par Sciences Po. La veille, un autre site de l'établissement avait été évacué.
Merci beaucoup, Etanit Belaïch. Etanit, qu'on retrouve tout au long de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 10h. Et vous restez avec nous pour notre dossier du jour.
Radio J.
Effectivement.
Le 9-10, Ilana Ferradian.
Notre dossier sur Amy Winehouse à suivre sur Radio J. Et puis, Mendel Nissenbaum, le commentaire de la Torah de la semaine avec le rabbin. Ce sera à partir de 9h45.
Radio J.
Le Forum Radio J. Retrouvez tous les dimanches à 14h10 le Forum Radio J, l'émission politique historique de Frédéric Aziza. Le Forum Radio J de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 14h10 uniquement sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Le 9-10. Le 9-10. Ilana Ferradian.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night.
De la musique et un hommage. hommage à présent à une artiste qui nous quittait il y a 13 ans, Amy Winehouse, le 23 juillet 2011. La chanteuse qui s'éteignait à seulement 27 ans. Et cette semaine, on l'attendait depuis plusieurs mois, est enfin sorti le biopic consacré à la torturée et talentueuse chanteuse juive britannique Amy Winehouse. Son histoire qui a été donc adaptée au cinéma avec le film Back to Black de Sam Tyler, qui a par ailleurs fait l'objet de critiques plutôt négatives, c'est vrai. Mais c'est l'occasion en tout cas pour nous de lui rendre hommage avec vous, Etanit Belaïch, une auteure, compositrice, interprète, fière de ses racines juives, mais aussi une icône de la pop fragile qui s'est noyée dans les addictions, qui ne s'en est jamais remise. Avec vous, Etanit, on va donc retracer ce matin le destin tragique de la diva. Et c'est dans une famille juive qu'Amy Winehouse a vu le jour à Londres en 1983.
Dans le quartier de Enfield, plus précisément au nord de la ville, dans une famille de classe moyenne, père chauffeur de taxi et mère pharmacienne, une famille juive originaire d'Europe de l'Est, les arrière-grands-parents des Winehouse sont originaires de Biélorussie, arrivés en Angleterre dans les années 1800 et installés depuis deux siècles dans le quartier juif londonien d'East End, là où échouaient les juifs fuyant la misère et les pogroms.
Alors à la maison, on fait Shabbat, on célèbre les fêtes juives, on aime la musique, le jazz en particulier. Son père adore Frank Sinatra, notamment. Son oncle est trompettiste, mais son vrai modèle à Amy, c'est sa grand-mère juive, Cynthia Levy, danseuse de cabaret dans les années 50.
L'un des premiers tatouages d'Amy Winehouse est d'ailleurs une représentation de sa grand-mère en pin-up des années 50, tatouée sur son bras droit. Amy Winehouse gardera donc toujours un rapport fort avec ses origines juives. Elle déclarera plus tard « Être juive pour moi, c'est être ensemble comme une vraie famille ». Son frère aîné dira « Amy était incroyablement fière de ses racines judéo-londoniennes ». D'ailleurs, si vous êtes de passage à Londres, une statue la représentant avec une étoile de David en pendentif trône dans le quartier de Camden Town.
Effectivement, une statue d'ailleurs qui a été vandalisée peu après le 7 octobre. Alors, Amy a grandi aussi dans un univers très musical. Elle prend des cours de chant à l'Earnshaw School, puis au Sylvia Young Theatre Scholo, mais elle ne reste pas longtemps, car elle n'est pas très disciplinée. Après avoir fondé un éphémère groupe de rap à 10 ans, elle s'initie à la guitare et chante dans un groupe de jazz. Et à 17 ans, elle est la chanteuse vedette du National Youth Jazz Orchestra. Avec sa tessiture de mezzo-soprano et contralto, elle a une voix, c'est vrai, comparable aux grandes voix féminines du jazz et de la soul. Et un temps, Amy sera aussi journaliste musicale dans une agence de presse People.
Son copain d'alors, un chanteur de soul, James Tyler, envoie une maquette de présentation de Amy Winehouse à un studio qui cherche une chanteuse de jazz. Un coup de pouce qui va tout changer puisqu'elle parvient à signer sur le label Island Universal. En mai 2002, elle rencontre en Floride Salaam Remy, producteur du groupe de rap des Fugees dans les années 90. C'est lui qui va produire son album Frank qui sort en 2003, un album de jazz dont elle a coécrit toutes les chansons et qui parle avec un regard désabusé des relations amoureuses, du monde, de la musique et de sa propre existence. Écoutez Take the Box, un des titres phares de cet album.
De la jeune femme qui va remporter un succès public et critique en Angleterre en 2004. L'album est sélectionné pour concourir aux Brit Awards dans deux catégories. Il est ensuite certifié disque d'or en Angleterre. En tout, Frank, l'album atteindra les 2 millions d'exemplaires.
Oui, Amy Winehouse commence à avoir du succès, mais tombe aussi dans les excès. Elle s'installe dans le quartier interlope de Camden. Elle sort beaucoup la nuit, boit énormément. Amy Winehouse n'écrit pas pendant 18 mois et puis fait la rencontre d'un chanteur, guitariste et producteur, Mark Ronson, qui a notamment travaillé avec Christina Aguilera. Ensemble, ils travaillent sur un second album dans un style plus pop.
Et cet album qui sort en octobre 2006 au Royaume-Uni, c'est le fameux Back to Black, le premier single qui va porter le futur triomphe du disque. C'est le titre Rehab, une chanson hélas autobiographique où elle évoque une dépression subie en 2005, son addiction à l'alcool. Rehab étant pour rappel une abréviation pour Centre de Désintoxication, Rehabilitation Center. I've been black, but when I come back, no, no, no. Ils ont essayé de m'emmener dans un centre de réhabilitation. J'ai dit non, non, non. Rehab d'Amy Winehouse. Assez rapidement, l'album Back to Black et Tanit marque la consécration pour la jeune artiste dans le monde entier.
Lors de sa sortie en mars 2007 aux États-Unis, Back to Black atteint la 7e place du Billboard. Le Times choisit le titre comme chanson de l'année. Lors de sa sélection des 10 meilleurs titres de 2007, et le succès perdure plusieurs mois. L'album est aussi numéro 1 des ventes en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en France. Amy se produit aux Eurockéennes de Belfort en juillet 2007. Au Royaume-Uni, c'est l'album le plus vendu de l'année 2007. Il faut dire qu'il regorge d'autres tubes efficaces comme Love is a Losing Game, You Know I'm Not Good ou encore Back to Black.
Amy Winehouse, conséquence du triomphe de cet album, 11 millions d'entrées vendues à travers le monde. Amy Winehouse reçoit plusieurs distinctions. En 2007, elle remporte le fameux Brit Award de la meilleure artiste féminine britannique. Et l'année suivante, elle remporte 4 Grammy Awards, meilleur album vocal pop, enregistrement de l'année, chanson de l'année et meilleur nouvel artiste.
Mais ce succès rapide fragilise l'artiste qui doit lutter contre ses addictions, dépression, toxicomanie, alcoolisme. Alors que Back to Black triomphe dans le monde entier, Amy Winehouse perd pied. Elle annule dès l'été 2007 un certain nombre de spectacles au Royaume-Uni et en Europe. Elle est hospitalisée pour une overdose. La presse scandale s'en donne à cœur joie et la traque.
Mais oui, on peut effectivement parler de traque. Amy Winehouse est arrêtée le 7 mai 2008, soupçonnée de possession de drogue après qu'une bande vidéo remise en janvier à Scotland Yard et diffusée par le tabloïd The Sun, qui semble la représenter en train de fumer du crack, est diffusée. Elle est libérée sous caution. Elle ne sera pas poursuivie toutefois. Aucune preuve n'existant qu'il s'agissait d'une substance illicite.
Malheureusement, les cures de désintoxication ne donnent rien. Conséquence de sa consommation de drogue, Amy Winehouse a des poumons très endommagés et pour ne rien arranger, entretient une relation tumultueuse avec son mari, Blake Fielder Civil. Violents l'un envers l'autre, ils finissent par divorcer moins de 2 ans après leur mariage. Ajoutons à cela qu'Amy souffre depuis son adolescence de boulimie.
En 2011, elle ne va pas au bout de son concert à Dubaï. Elle ne termine pas non plus sa tournée européenne dont elle annule les dernières dates, les concerts précédents ayant tourné au fiasco. La chanteuse titubant sur scène, ivre, incapable de savoir où elle chantait. Et le samedi 23 juillet 2011, le monde entier apprend la terrible nouvelle. Amy Winehouse est retrouvée morte dans son appartement du quartier de Camden Town à Londres.
On retrouve 2 bouteilles de vodka vides au pied de son lit. L'autopsie révèle une surdose d'alcool. Après une période de sevrage d'alcool de 3 semaines, la reprise brusque d'une consommation importante lui a donc été fatale.
Amy Winehouse rejoint ainsi le club des 27, ces musiciens morts au même âge après une courte vie d'abus et d'excès en tout genre. Ça avait commencé dès les années 30 par le musicien de blues Robert Johnson, suivront Brian Jones, membre des Rolling Stones en 1969, 1970, Jim Morrison, leader des Doors, qui est mort à Paris, Jimi Hendrix, Janis Joplin et enfin Kurt Cobain, le leader du groupe Nirvana, tous morts à 27 ans, Kurt Cobain en 1994. Amy Winehouse est donc venue compléter cette sinistre liste, seulement 27 ans en effet, et beaucoup de projets pour l'artiste qui avait enregistré plusieurs chansons avant sa disparition.
En septembre 2011, le crooner Tony Bennett sort en effet un album de duet sur lequel figure un titre enregistré avec Amy Winehouse, Body and Soul. Il s'agit de la reprise d'un standard de jazz autrefois enregistré par Frank Sinatra, Ella Fitzgerald ou bien encore Billie Holiday. Et cette version rappelle qu'Amy Winehouse était avant tout une interprète jazz et soul d'exception.
Effectivement, Body and Soul, fin 2011, un album posthume d'Amy Winehouse paré, Lioness, Hidden Treasures, numéro 1 dès sa sortie dans plusieurs pays et porté par un premier extrait, Our Day Will Come, le film Back to Black, donc qui est sorti ce mercredi au cinéma. Profitez-en, je vous le disais, sans popcorn, puisque c'est Pessard, bien sûr. Et tout de suite, ma chanson préférée d'Amy Winehouse, Mr. Magic, issue de son album Frank.
Yeah. laying on my bed.
Merci d'être avec nous comme chaque jour sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et oui, comme tous les matins. Mais moi, j'officie rarement, c'est vrai, de 9h à 10h. Je vous accompagne en tout cas pendant encore ce dernier quart d'heure. Nous allons retrouver dans quelques instants Mandel Nissenbaum pour le commentaire de la Torah de cette semaine. Restez avec nous.
Hélène Affaire Radio.
Radio J.
Radio J.
Et oui, vous êtes bien à l'écoute de Radio J, vendredi 26 avril, veille de Shabbat. J'aime bien donner les horaires du Shabbat. Entrée ce soir à Paris, 20h41. Sortie demain, 21h54, avant-veille de la fin des fêtes de Pessah qui commémore l'ouverture de la Mer Rouge. Et justement, pour en parler, pour commenter, nous retrouvons à présent, comme chaque vendredi, le rabbin Mandel Nissenbaum. Bonjour.
Bonjour Inanna, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, on parle de l'ouverture de la Mer Rouge, un des grands miracles de la fête de Pessah pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. Comment les Juifs d'abord se sont retrouvés devant la mer, Mandel ?
Alors en effet, bonne question, puisque le peuple sort d'Égypte et la trajectoire devait amener soit par... c'est un passage qu'on connaît bien aujourd'hui, le passage de Rafah qui ramenait directement sur la terre d'Israël. Et donc, en sortant d'Égypte, il n'y avait pas besoin, c'est pas inutile complètement de faire tout ce détour. Mais Dieu a préféré faire ce détour pour plusieurs raisons. Première raison, il ne voulait pas qu'ils rentrent tout de suite en guerre à la sortie d'Égypte. Ils sont comme fatigués, épuisés. Et en voyant une guerre contre un ennemi, vouloir tout de suite revenir en Égypte et retourner en arrière. Donc, c'est première raison. Mais autre raison également, Dieu a voulu qu'ils reçoivent la Torah dans le désert. Et souvenons-nous que la sortie d'Égypte, Dieu le dit dès le départ, vous sortez de la servitude égyptienne afin de me servir. Donc il faut recevoir la Torah, et absolument recevoir la Torah dans le désert avec toute une préparation. C'est-à-dire sortir du monde, se séparer un peu de ce monde matériel pour pouvoir être prêt à recevoir la Torah. Donc en effet, ils vont se retrouver devant cette mer par un détour que Dieu fait, parce que Dieu ici veut se révéler à son peuple, et avant même de vouloir se révéler et faire un miracle par rapport aux Égyptiens, c'est surtout envers son peuple que Dieu veut se montrer ici.
Mais alors comment les Juifs ont réagi? Comment le peuple d'Israël a réagi?
Alors, évidemment, on arrive devant cette mer, comment faire? Alors nos textes le racontent, il y a même quatre groupes qui s'élèvent, qui disent qu'il faut leur faire la guerre, puisqu'on a les Égyptiens quand même qui ont poursuivi derrière. Donc ils se retrouvent en sandwich entre la mer et l'armée égyptienne. D'autres disent on se rend, d'autres qui vont aller même plus loin, dire on se jette à l'eau et on veut plus retourner en Égypte. Et d'autres qui disent prenons l'arme de nos ancêtres, prions. Mais c'est là où Dieu dit pas du tout. Tout est faux ici, il ne faut ni l'un ni l'autre, aucun des quatre, puisque l'idée est maintenant d'avancer. Il y a le moment de prier, il y a le moment où il faut se remettre en question, il y a des moments pour tout, mais il y a certains moments où il faut juste avancer. Ou d'ailleurs, quand Moïse se pose la question, mais que faire, puisqu'on est devant la mer? Dieu lui dit, d'Aber el Israël, parle au Ben Israël, veïssao, et qu'il voyage. Le moment maintenant est venu d'avancer. Pas de prière ni rien. Même la prière maintenant est inutile. Le peuple juif est en souffrance. Je m'en occupe, Dieu dit. Je m'en occupe, donc il faut juste qu'ils avancent. Et c'est un petit peu le message actuellement, c'est-à-dire que quand on a des moments troubles, il faut savoir que parfois Dieu nous demande tout simplement d'avancer, puisqu'il est derrière nous.
Alors, on parle de ce miracle, l'ouverture de la mer Rouge. Concrètement, Mendel, comment la mer s'est ouverte?
Alors, concrètement, comment la mer s'est ouverte? Tout à fait très bonne question, puisque la Torah nous le décrit de manière assez fabuleuse. C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse, comme on vient de le citer, parle au peuple et qu'ils voyagent et qu'ils avancent. Le peuple répond à Moïse en disant, mais où allons-nous avancer? Vers quelle direction? La mer étant devant, comment faire? Se lève un juif qui était de la tribu de Yehuda. Il s'appelle Nachshon, fils de Aminadav. Et lui s'adresse à Moïse et dit, puisque Dieu a dit d'avancer, j'avance. Et entre dans l'eau. Littéralement, commence à marcher dans la mer jusqu'à ce que l'eau lui arrive au menton. Donc, prêt à se noyer quasiment. Et il dit, Dieu dit d'avancer, j'avance. On ne se pose plus de questions. C'est là où, quand Dieu voit ainsi, il dit à Moïse, lève ton bâton et que la mer s'ouvre. C'est-à-dire ici qu'il fallait un effort. Dieu demande un effort de la part ne serait-ce que d'une seule personne, comme ça s'est passé lors de cette ouverture. Cette personne qui a dit, Dieu a demandé quelque chose, je le fais. Je dois obéir à la parole divine, c'est-à-dire il faut avancer. Maintenant, évidemment, comment avancer? Il y a la mer devant, les Égyptiens derrière. Où avancer? Dieu a dit d'avancer, j'avance sans se poser de questions. Et c'était un petit peu les prémices, puisque rappelons-nous quand même que cette fête de Pessah est la naissance du peuple juif. La naissance du peuple juif qui veut dire, où Dieu a dit, c'est mon peuple, c'est mon fils unique, et je le protège. Mais en même temps, Dieu veut un sacrifice, et un sacrifice de la part de son peuple, c'est-à-dire, comment nous sommes prêts à le servir? Et ce que Nachshon fait ici, ce qui est appelé le premier qui était prêt à donner sa vie pour Dieu sans réfléchir. Dieu a dit d'avancer, il avance. Évidemment, Dieu ne désirait pas ce qu'il meure, mais Dieu voulait tout simplement voir cette soumission et qu'elle existe dans le peuple, c'est-à-dire cette envie de faire exactement ce que Dieu a demandé, comme Dieu l'a demandé. Le but de cette ouverture de la mer est même beaucoup plus profond, si je peux me permettre, rien là. Mais ce but d'ouverture de mer, c'était se montrer au peuple juif, c'est-à-dire que le peuple, comme il est dit, Vayamin ou Bachem, ils ont cru en Hachem, ou Moshe Avdan, Moshe son serviteur en Moïse. Donc, c'était pas juste le miracle et pouvoir refermer les Égyptiens sous cette mer, mais c'était surtout le dévoilement divin envers le peuple juif, puisque le dévoilement de la mer, comme nos textes et nos sages le disent, mais ce qu'une servante, c'est-à-dire quelqu'un, une personne la plus simple, a pu voir le dévoilement, a pu voir Dieu sur la mer, même le prophète Ézéchiel qui a eu les plus grands dévoilements puisqu'il a vu le trône céleste, n'a pas vu. Donc Dieu voulait se révéler et Dieu s'est révélé à travers cette ouverture de mer Rouge.
Merci beaucoup Mendel Nissenbaum. Merci Mendel, on vous retrouve chaque semaine sur Radio J, je vous dis Chag Sameach et Shabbat Shalom, à très bientôt.
Shabbat Shalom, Chag Sameach à tous.
Radio J.
Le 9-10, Ilana Ferradian.
אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון. אני שייך לעם, שלא הבין כל היסטוריון. אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו. אני שייך לעם, שים גדול נס מפניו. אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף. אני שייך לעם, שעליו פלסף כל פילוסוף. אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס. אני שייך לעם, שבשבילו נברא הנס. אז מה נשתנה העם שלי? מכל העמים, מכל העמים, שבכל העמים אלי להם. לא רואים ולא שומעים, לא רואים ולא שומעים, ולעם של אבני שייך השם אלוק האב. ולעם של אבני שייך השם אלוק האב. אני שייך לעם ששרד בכל עידן. אני שייך לעם שלא פיתח אותו מדען. אני שייך לעם שמאמין בחכמים. אני שייך לעם שעם אביו הולך תמים. אני שייך לעם שקרא מלשם אליי. אני שייך לעם שאף הוא שייך אליי. אני שייך לעם הנבחר ומאחר. זכר שאני שייך אליו אני מודה ואני שר את מה נשתנה העם שלי מכל
ce matin avec Ishaï Ribot. Merci les amis de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver mercredi matin dès 6h sur Radio J. Vous le savez, lundi, mardi, c'est Yom Tov, jour de fête. Il n'y aura donc pas d'antenne en direct, mais on vous retrouve avec grand plaisir mercredi matin. Et je vous laisse avec les Maccabits ce matin et à la réalisation Serge Surpin. Shabbat Shalom et Chag Sameach.
I'm dying new, die dying new, die dying new, die dying new, dying new, dying new, die dying new, die dying new, die dying new, dying new, dying new.
Radio J.
Radio J.
Hello, hello, Avatana, me.